Bonjour à tous, merci Muriel et merci le musée de nous accueillir. On était content avec Christophe d'avoir pu trouver cet espace qui était à notre avis à la fois central d'un point de vue de l'espace urbain qui permettait aux Parisiens et aux gens qui ne connaissent pas Rouen de venir facilement de la gare à pied, de pouvoir connaître un autre endroit que ce qu'on connaît d'habitude quand on parle de musique en général. On ne voulait pas, comme l'a dit Solveig et Luc, rester dans le cadre de l'université, ouvrir donc ces questions aux acteurs, que ce soit les musiciens, les gens qui ont fait les labels, les fanzines, les gens qui ont tenu des salles de concert, que tout le monde puisse se sentir concerné. Et c'est aussi pour ça qu'on n'avait donc pas choisi d'aller au 106 ou dans un endroit qui puisse être déjà complètement connecté avec les espaces, enfin avec les acteurs de la musique en général. Et comme on va le voir, on a donc choisi de vous présenter. Avant que chacun puisse, vous avez vu le programme s'exprimer sur que les acteurs même de la scène puissent parler. Avec Christophe, nous nous sommes rencontrés dans ce programme parce qu'on était les deux Normands. On est les deux Normands. Hein. Donc ce qui a fait de nous un binôme de choc, inséparable désormais sur la question. Le bas Normand qu'il est, s'occupe d'abord de la Basse Normandie et la journée de Caen, qui était une journée mémorable dont vous avez vu des photos, était un grand succès. On a appris beaucoup de choses, on a découvert des groupes extraordinaires de Sanerville, des groupes extraordinaires de Basse Normandie. On a vu aussi des labels. C'était vraiment une belle journée et on s'est dit que l'intérêt de faire une journée d'études à Rouen, c'était justement d'exploiter un petit peu ces liens, les concordances et les différences dans une même région qu'est la Normandie, entre la scène musicale à Caen, au Havre, à Rouen. Comment est-ce que l'ensemble des groupes ou des acteurs ont travaillé ou pas ensemble depuis, dans toutes ces... Donc on a défini ce que Solveig a défini comme trois générations, punk d'origine 76, 78 ou 79, la génération des années 80, 90 et la scène aujourd'hui. On a eu l'occasion de rencontrer des gens des trois générations et on voit que les liens dans une même région sont très différenciés. Et nous avons envie de vous présenter aujourd'hui, à partir d'un travail essentiellement d'historien qu'est Christophe sur l'aventure punk en Normandie, quelles sont les spécificités de la Normandie quant à son appétence pour le rock, la manière dont historiquement Rouen, en particulier la Normandie aussi, était ouverte au rock depuis les années 50 et à une influence américaine et anglaise depuis le 19e. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Peut-être ça en fait aussi un creuset particulier pour une scène qui a émergé très vite en 76-77 et donc avec une ville qui est un peu iconique de l'aventure punk. Voilà pourquoi nous allons vous présenter des éléments qu'on a appelés contextuels et qui sont juste les sources et le contexte historique de l'émergence d'une scène musicale rouennaise. À bien. Toi.
Donc, voilà, tout a été dit. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu surtout tout ce qui est avant 77, pour essayer de comprendre un petit peu comment la Normandie s'est imprégnée un petit peu de la culture anglo-saxonne, hein, puisque on va voir que c'est lié à différentes périodes historiques. Mais ce travail sur la scène punk normande, c'est ce qu'a dit Solveig et Luc. Hein. En France, il n'y a pas grand-chose sur cette question-là. Alors déjà sur la France, alors encore moins sur la Normandie, même si les Anglais, ont quand même publié un certain nombre d'ouvrages sur la question. Donc le but, c'est vraiment d'étudier cette région normande, hein, qui est souvent citée, surtout Rouen, comme un berceau du punk. Et donc l'objectif, c'est il y a eu quelques travaux, notamment de journalistes, Christian Eudeline, hein, avec Nos années punk, où vous avez une interview des Olivenstein, un certain nombre d'articles journalistiques, mais il n'y a pas de, de travaux scientifiques pour essayer de comprendre ce qu'a pu être cette aventure punk sur le territoire normand et montrer aussi toutes les différences entre les différentes régions, parce qu'on a parlé des grandes villes, mais bien évidemment qu'il faut placer aussi les villes moyennes. Moi, je viens de Lisieux, donc à Lisieux, dès 78, il y a aussi des groupes punk. Il y en a au Ponton de Mer, il y a Xianzhou, il y a Cherbourg, il y a Saint-Lô, enfin voilà. Donc il y a les grandes villes, mais tout autour, il y a quand même un certain nombre de villes moyennes où s'expriment certains groupes. Et donc le but, c'est d'aller récolter un petit peu cette mémoire locale, donc à travers les acteurs, à travers la presse régionale, etc. Donc comment on travaille avec Estelle, c'est nos réseaux, moi plutôt sur la basse Normandie, parce que je suis plutôt de Caen, et puis Estelle est plutôt de Rouen, donc ça, c'est intéressant de travailler sur ces deux capitales. Alors, il y a évidemment le Havre, donc c'est d'aller rencontrer ces acteurs, anciens, nouveaux, actuels, pour essayer de comprendre un petit peu, comment ils ont participé ou participent à cette histoire du punk. Donc c'est récolter cette mémoire locale, puisque beaucoup des archives qu'on a pu récolter proviennent des acteurs. C'est aussi travailler avec des sites internet, des expositions, puisque vous le savez peut-être, à Rouen et au Havre, il y a Claude Levieux qui a son site Rouen l'Explosion Rock, qui collecte quand même un maximum d'archives. Et pour Le Havre, par exemple, vous avez Rock in Le Havre de Laurie, qui permet de recenser. Alors, il n'y a pas que du punk, mais c'est toute la culture rock du Havre et de Rouen. Donc voilà, ce sont des sites sur lesquels on peut s'appuyer, un certain nombre d'archives mises en ligne. Donc c'est quand même facile aussi pour le chercheur de récolter ces différents articles. Il y a eu quelques expositions. Et puis, on peut aussi consulter les archives locales, même si, Luc l'a dit, les archives du punk, ça ne se trouve pas dans les archives départementales ni nationales. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver pour travailler? C'est surtout la presse locale. Si on prend la Normandie, Ouest-France, qui parle déjà un peu de punk dès 77. Vous avez aussi Paris-Normandie, plus sur Rouen, où là, vous avez l'annonce de des concerts qui ont marqué un petit peu le territoire en 76-77, les Clash, les Ramones. Donc on peut, à travers la presse, trouver un certain nombre de photos ou d'articles ou d'interviews sur ces premiers concerts. Et donc, il y a aussi l'INA, les vidéos, etc. Donc, il y a tout un corpus à étudier. Et donc, c'est à nous d'aller aussi chercher toute cette masse d'informations qui est disséminée des fois dans les caves, etc. Donc ça, c'est le site de Claude Levieux.
Claude, on remercie, comme vous avez vu sur la diapositive, Eric Tandy et Claude Levieux. Toutes les photos qu'on a, beaucoup de photos dont on dispose pour travailler sont celles que Claude a eu la patience et d'archiver et la gentillesse de communiquer, notamment sur ce site que que tout le monde connaît maintenant, l'Explosion Rock. Claude comme Eric n'ont pas du tout envie de venir, quand on les invite à venir, n'ont plus du tout envie de parler de tout ça. Claude, le mois dernier, on en a parlé pendant une heure, il dit qu'il n'a plus rien à dire, tout est là dans le travail d'archives qu'il fait, il n'a pas envie de parler de tout ça. Et il est vrai que comme les expositions, les choses qui ont été faites à l'occasion de l'année dernière des 40 ans du punk ont épuisé notamment Eric Tandy, qui n'a plus du tout envie de parler, qui nous donne tous les documents qu'il veut, qui est venu plusieurs fois au début du projet, notamment à la Philharmonie. On a vu d'ailleurs quelques images, et donc on le remercie ici comme Claude de nous donner, continuer à nous fournir tous les documents qu'il veut, que l'on souhaite, et les explications en tant que mémoire vivante sur la première période rouennaise. Mais voilà, ils n'ont pas du tout maintenant pour eux tout ça et l'histoire que nous sommes en train de faire, ils ont l'impression de l'avoir déjà écrite ou vécue et faite. Donc néanmoins, on les remercie à travers l'ensemble des documents dont on dispose pour travailler. Donc Christophe a travaillé le premier sur l'histoire de la culture populaire normande et comment est-ce que la Normandie est-elle devenue rock. Donc c'est la question à laquelle historiquement Christophe s'est attaché, et vous présentez comment la Normandie était imprégnée depuis toujours de l'Angleterre et des influences anglo-saxonnes.
Voilà, juste pour remonter un petit peu le temps, juste pour montrer que c'est surtout qu'il y avait des liens culturels déjà dès le 19e siècle. Alors, bien évidemment, on ne parlait pas de punk, mais c'est pour montrer que la présence anglaise en Normandie, elle est très vive depuis le 19e siècle, hein, depuis les stations balnéaires, si on prend toute la côte. Et donc, forcément, avec derrière toute la culture, alors bien évidemment, toute la culture de la classe de loisirs, hein. Mais pour montrer, il y a une imprégnation, vraiment, le territoire normand qui peut être une identité propre, hein, de cette présence anglaise, d'abord. Ensuite, bien évidemment, la présence américaine via la compagnie transatlantique, hein, entre Le Havre et New York, donc avec le transit, hein, d'un certain nombre de touristes qui viennent sur le territoire normand. Et puis, surtout, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, hein, puisque suite au débarquement, eh bien, vous avez les GI qui vont rester sur le territoire. Alors, si on prend, ça va être de Cherbourg jusqu'au Havre, hein, donc toute la côte. Et donc, les GI, forcément, ils amènent aussi leur culture. Donc, ça va être ça sera le début du rock'n'roll. Hein. Et notamment, ça va surtout se mettre en place entre 52 et 67, par exemple, sur la base de l'Air Force d'Evreux, où, dans cette base américaine, hein, vous avez à peu près 9000 GI qui vivent. Et donc, les GI, eh bien, ils vont reproduire un peu le mode de vie à l'américaine. Et donc, ils vont importer des 45 tours, hein, les premiers 45 tours, par exemple, d'Elvis Presley ou de Bill Haley, etc. Ils vont organiser des balles avec des groupes, avec des orchestres, plutôt, parce qu'on parlait plutôt d'orchestre. Et donc, la population locale va se familiariser avec cette musique, avec cette culture. Faut pas oublier non plus Le Havre, puisque Le Havre, les GI débarquent au Havre et les transitent au Havre. Donc au Havre, il y a aussi des concerts qui sont organisés. Donc tout ça, ça transite sur le territoire normand.
Tu fais compléter. Il y a un super bouquin avec lequel on travaille aussi qui s'appelle L'histoire du rock, rock en Normandie. 58-68, sur 1958 à 68, qui est un super bouquin avec plein de photos, où on a le témoignage où on explique bien comment l'état-major de la US Air Force se souciait de la santé mentale de ses GIs et organisait donc pour que les mecs puissent quand même organiser des super concerts et faisait venir donc les premiers concerts. Les mecs comme Bill Haley, Fats Domino, comme on voyait, ou Isley Brothers, qui ont joué à Évreux dans cette base américaine, où les mecs étaient non seulement donc les GIs à la fois connaissaient du coup cette musique, mais il y avait aussi la société civile qui pouvait profiter parfois de certains de ces concerts et qui commençait les premières fois où les mecs faisaient des groupes et jouaient donc dans ces endroits qui étaient l'escapade, le dancing des sports. Ils faisaient des groupes qui imitaient. Alors au début il y avait du jazz et après les premiers orchestres, comme dit Christophe, orchestres de rock. Et ce qui était intéressant dans le bouquin, il explique bien cet historien que c'était vraiment, tout était importé. Les Américains, ils utilisaient absolument rien des ressources locales, même le lait, alors qu'on est en Normandie, ils affrétaient des camions entiers de lait qui venaient de Hollande, ils importaient tout, la musique, le lait, etc. Ils vivaient complètement, donc c'était assez fascinant. Et on a des témoignages de gens, de grands-pères de l'époque, ou de personnes, quand il a fait son bouquin dans les années 80, qui disait qu'à part se bourrer la gueule dans les bars, il voyait pas les Américains ailleurs que dans des fins de balles. Et c'était là. Donc pour eux, c'était une influence vraiment rock, en tout cas, qui était ressentie comme telle. Et les mecs jouaient dans des bars comme ça, beaucoup, beaucoup autour d'Evreux et jusqu'au Havre, avec les paquebots débarquaient entièrement.
Et donc cette influence va inciter un petit peu certains jeunes à créer leur propre groupe, alors vraiment sur le modèle le modèle des groupes américains. Hein. Donc là, vous avez voilà, différents noms de groupes. Hein. Alors, Rouen, voilà, les Shazam, les Rapaces, les Météores. Alors, bien évidemment, avec souvent des noms un peu anglo-saxons. Hein. Donc, à Évreux, vous avez un certain nombre de groupes. Au Havre, vous en avez aussi. Alors, à Caen aussi, hein, parce que là, on n'a pas mis Caen, mais voilà. Avec des fois les mêmes noms, les Vikings, les Sonics, etc. Alors, pas les Sonics américains. Hein. Donc, vous avez un certain nombre de groupes qui se diffusent et qui va diffuser cette culture rock'n'roll hein, autour de voilà de alors Rouen, Évreux, à Fécamp, etc. Donc la population voilà s'approprie un peu cette musique. Alors avec quelques débordements bien évidemment parce que la jeunesse voilà qui danse etc. elle est un petit peu fougueuse. Hein. Par exemple lors du concert de Bill Haley à Wavre en 58, les flics débarquent et parce que on casse les chaises etc. Donc voilà et c'est une nouveauté pour le public qui reste assis souvent à regarder un petit peu. Donc voilà il y a aussi cette notion un peu de débordement ou de violence qui apparaît avec ces premiers groupes de rock and roll. À côté de ça vous avez aussi eh ben, quand on avance dans le temps, des divers courants musicaux qui vont apparaître. Donc, il va y avoir le rock progressif, il va y avoir le free jazz, il va y avoir un peu le heavy metal, enfin, le hard rock. Donc, avec des groupes plus connus à Rouen, Rotomagus, par exemple, hein, voilà, qui sont une sorte de rock progressif, un peu psychédélique. Hein. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a déjà des premiers groupes qui vont commencer à jouer voilà, sur Rouen, et ça va aussi voilà, inspirer un petit peu par la suite hein, d'autres types de groupes, hein, jusqu'à l'arrivée bah, des groupes plus, on va dire, plus rock'n'roll.
Et déjà des lieux qui sont, pour revenir sur cette collaboration entre musiciens, acteurs locaux, autour de 68, évidemment, c'est déjà comme ça l'est ensuite dans les années 70, autour de l'école des Beaux-Arts, que se créent les mouvements émergents et les musiques un petit peu différentes, et donc autour de l'école des Beaux-Arts de Rouen. Et puis le premier magasin, la boutique des jeunes, qui était le rendez-vous des musiciens dans les années 70, qui était au début rue Bourlabé, après ça a bougé, qui fut un endroit assez stratégique, comme le sera ensuite, comme le seront ensuite les autres magasins de disques, que ce soit au Havre ou à Rouen avec Mélodie. On verra que déjà les lieux sont des endroits de rendez-vous dès les années fin des années 60. Le magasin de disques dans une ville en province, ça reste un cœur, un lieu névralgique de culture rock. Donc, si on raconte toute cette histoire, c'est juste pour essayer de comprendre comment s'est construit le capital rock à Rouen, avant qu'elle devienne la capitale du rock en France. Qu'est-ce que c'est donc le contexte avant l'émergence du punk en France et même en Angleterre? Qu'est-ce que c'est que de vivre à Rouen dans les années 70? Ben voilà, la rue Jean Le Canuet, qui fut la rue Thiers autrefois. Et voilà une belle affiche de Jean Le Canuet hein, dans les années 60. Donc en 75, Rouen, c'est 115 000 habitants, donc avec cette ville qui a cette spécificité dont je pense les musiciens et les acteurs qui pourront prendre la parole tout à l'heure parleront bien mieux que nous sur la différence entre la rive droite et la rive gauche, qui est un truc assez intéressant à Rouen, qui est fondateur de plein de choses au niveau de l'histoire culturelle et de l'histoire sociale de Rouen. C'est une spécificité vraiment particulière, même pour la musique et pour la vie culturelle en général. Le contexte est celui que Solveig et Luc ont présenté tout à l'heure, en ouverture des vœux de Giscard d'Estaing. On est donc fin des Trente Glorieuses, avec une espèce de perte un peu des illusions de 68. À Rouen en particulier, l'industrie commence à décliner. C'est la première perte d'emploi au niveau des chantiers de Normandie. C'est la fin des années 70 aussi, avec la montée du chômage. Elle est vraiment très marquée sur la zone industrielle à partir de 75. Et on a, à la suite de ces groupes de rock progressif, au début, les groupes qu'on a évoqués tout à l'heure, on a des 73-14, et c'est le creuset qui nous intéresse, une explosion de groupes de rock dans ce contexte particulier. Ce qu'avait évoqué aussi Christophe tout à l'heure sur l'influence et l'imprégnation anglo-saxonne passe aussi pour beaucoup par l'écoute de la BBC One et évidemment des sessions de John Peel. Et puis la facilité pour les élèves, les jeunes Rouennais, Normands, même à Caen et au Havre, d'avoir cette liaison assez rapide et cette fréquentation et cette connaissance de l'Angleterre à travers même des échanges culturels ou des voyages. On prend plus facilement le ferry en étant Rouennais qu'en étant Lyonnais. Donc forcément, la connaissance de la culture rock anglaise dès les années 75, elle est facile et présente. Donc à Rouen, à la fin de ces années 70, les lieux de la musique qui sont... pourquoi ça y est, ça ? Ça marche, ça fait la petite animation. Au Havre.
Donc oui, alors dans la diffusion de la musique rock, il y a certains facteurs qui participent à cette diffusion, et on en parlait, voilà, un des facteurs prépondérants, c'est les disquaires. Donc à Rouen et bien évidemment au Havre, vous avez un peu le même principe, hein, puisque si on prend le Havre, vous aviez un magasin qui s'appelait Crazy Little Thing, qui était tenu par Philippe Garnier, puis ensuite qui est parti en tant que journaliste, qui depuis 73 avait ouvert son petit magasin. À Rouen, si vous aviez Record Shop, à partir de 61, c'est surtout Mélodie Massacre, hein, le magasin culte depuis 74 de Lionel Hermani et d'Éric Tandy. Hein. C'est le lieu emblématique où la jeunesse rock'n'roll de Rouen va se retrouver, va venir écouter des 45 tours qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc il y a aussi le disquaire est aussi un moyen d'acculturation un petit peu. On vient découvrir soit du rock garage, soit et bien évidemment les 45 tours punk. Mélodie Massacre fait aussi sa publicité, hein, qu'on peut retrouver dans les différents journaux. Qu'est-ce qu'on trouve chez Mélodie Massacre, le hit parade des disques à Rouen, vous voyez, avec les différents disquaires. Il y a même certains encarts publicitaires. Les Dogs aiment chez Mélodie Massacre et un certain nombre de titres, etc. Donc on associe aussi le groupe phare de Rouen avec le magasin. Le Mélodie Massacre a joué un rôle prépondérant dans la diffusion. Et c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, Lionel Hermani, c'est aussi un musicien qui a joué dans les premiers groupes de rock'n'roll des années 60. Donc il connaît aussi cette culture du rock'n'roll. Donc le magasin disque, alors il y a la même chose à Caen. Il y a aussi ce qui s'appelait Sweet Harmony. C'est le même principe dans les trois grandes agglomérations normandes.
Alors après les groupes des années 60 qu'on a vu, belle programmation, on a une des spécificités de Rouen et de la Normandie avec le Havre, c'est que tous les grands groupes de rock des années 70 jouent souvent pour leur première date en Normandie. On a des exemples, on en a plein, donc là il y en a très peu, mais on en a des dizaines qui seront dans nos publications et sur notre site internet. Là, c'est une évocation sur une diapo, on ne peut pas tout mettre. Les groupes arrivent d'Angleterre et souvent font leur première date en France, mais ça, par exemple, Jacques pourra nous raconter ça mieux cet après-midi, hein, Jacques, n'est-ce pas ? Et qui a programmé tous ces groupes-là dans les années 70. Il y a beaucoup d'archives là aussi qu'on peut retrouver sur des groupes comme... Alors au début, tout y passe du groupe de ces années 70, donc Soft Machine ou Ange, c'est pas très... qui joue en 69, en 72 à Rouen. Les concerts se faisaient ce qui s'appelait le Cirque d'Hiver, je crois que ça s'appelait comme ça, au Boulingrin. Ça s'appelait pas le Cirque d'Hiver ? Le Cirque quelque chose ? Voilà, où il y avait les concerts tout au début, et c'était les premiers concerts de... Voilà. Et puis après, des groupes comme Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods, les Famine Groovies, et puis les concerts, les vrais concerts de rock et de ce qu'on pourrait imaginer être vraiment punk ensuite, donc le concert de Clash, des Stranglers, des Ramones, etc., dont on reviendra, mais ça, on les évoque ici pour montrer un petit peu le contexte dans lequel les groupes rouennais peuvent émerger. et qui sont relayés indépendamment des concerts par des médias et par des fanzines ou des labels qui sont là aussi vraiment précurseurs en France, et ils sont rouennais. Oui. Par exemple. Ah. Alors on a FR3, vous avez le vieux logo très joli,
ouais, comme
de l'époque.
Je disais, ouais, y a, donc sur la presse, ouais, c'est étonnant de voir que voilà, il y a vraiment des articles de fond sur des groupes inconnus. Donc si vous lisez Paris Normandie sur les concerts des Ramones au Havre ou de Clash à Rouen en avril 77, vous avez vraiment des articles de fond. Alors qui présente le groupe, hein, d'où il vient. Alors, il est intitulé punk, new wave, rock d'aujourd'hui. Enfin, vous voyez, les terminologies sont pas encore établies. Mais voilà, on sent aussi. Alors, peut-être c'est le fait du journaliste, hein, qui est peut-être un plus jeune et qui aime cette musique-là. Mais bon, c'est étonnant dans Paris Normandie ou dans Ouest France d'avoir un encart en première page sur les punks anglais. Sur des groupes locaux, par exemple, voilà, à Caen, Bye Bye Turbin, un groupe, il y a une demi-page sur un groupe qui a fait 5 concerts. Donc voilà, la presse vraiment, alors là, c'est la presse régionale, mais quand on va encore un peu plus bas, la presse vraiment locale, elle appuie encore les groupes les moins connus. Je prends la presse à Lisieux sur un groupe, voilà, il y a au moins 15 articles sur un groupe, pareil, qui a fait 5 concerts. Donc cette presse-là, voilà, elle est importante pour le chercheur, parce qu'on y trouve un certain nombre d'infos. Et aussi, voilà, elle traduit ce que pouvait être cette nouveauté punk dans le paysage rock, parce qu'à côté de ça, il y a du folk, il y a du prog, etc. Mais voilà, il y a quand même une volonté des journalistes de mettre en avant aussi des groupes locaux. Hein,
Et vous verrez tout à l'heure, quand les musiciens vont parler ensemble, tout à l'heure, on a mis quelques images pour les accompagner de ces articles, on verra des articles de 75, 76 qui sont vraiment complets avec des photos effectivement sur des groupes qui n'ont pas forcément de notoriété terrible. Et puis une des spécificités aussi, et on remercie Jean-Pierre Turmel d'être venu aujourd'hui, une des grandes fiertés et une belle réussite qui est Sordide Sentimental, dont on a mis ici une illustration. Et qui, on ne se trompe pas, c'est la bonne date, Jean-Pierre, c'est 78. Voilà. Voilà. Et voilà. Tu peux donner le micro des secondes pour qu'on
t'entende. Un des journalistes vraiment importants dans la région, qui a fait un travail de fond depuis le début des années 60 à Rouen, c'est Bruno Lutrevillic, qui a écrit vraiment des articles très intéressants. J'entends par intéressant parce que ce n'était pas simplement de l'information, c'était vraiment de la littérature, pratiquement. C'était vraiment très important. Et il a suivi toute l'évolution du rock jusqu'à l'époque du punk. Et il a fait des textes pour les Dogs en particulier, qui étaient, à mon avis, fondamentaux. Autre détail que je voulais signaler, c'est un des personnages qu'il faut absolument citer aussi pour comprendre l'évolution du rock dans la région et aussi en France, c'est le personnage et l'artiste Vince Taylor, qui avait la particularité d'être d'origine anglaise, mais qui a été élevé aux USA et qui a fait pratiquement toute sa carrière en France. Et en particulier en Normandie. Il venait très régulièrement à Rouen, au Havre, et il a fait la liaison aussi, lui, avec le mouvement punk, ne serait-ce que par son look, qui était très important. Il était habillé tout en cuir, il arborait des chaînes de vélo. Bon, ce n'était pas des épingles à nourrice, mais c'était un élément du quotidien qu'il introduisait dans ses shows, et ça a été vraiment fondamental sur...
Tu penses que c'est quelle année à peu près la présence de Vince Taylor en
Normandie?
C'est plutôt fin 60.
Oui, dans les années 60. Hein. Oui. Il a même malheureusement fait un séjour à l'HP dans la région. J'ai aussi des vidéos d'un Noël qu'il a passé au Havre, par exemple.
Heureusement que tu as ta Bible.
Il a fait d'autres concerts dans la région.
C'est bien, heureusement que vous êtes là. Ben voilà, ça, c'est collaboratif. Ça, c'est bien. Merci oui. de nous donner toutes ces. Il fait quick, celui-là. Hein, non oui. Il sature à moitié. Merci Jean-Pierre. Et donc, si n'hésite pas à nous donner tous les renseignements ou de nous compléter toutes nos. Là, c'est vraiment cette présentation avec Christophe, c'est pour vous montrer comment on travaille pour préparer, enfin pour accompagner cette aventure-là. Et voilà, donc le contexte était posé pour qu'on voit comment émergent à Rouen les groupes et comment en 73. On cite cette chanson des Dogs qui s'appelle « Cette ville est un enfer ». On pose la question, est-ce que cette ville est vraiment un enfer pour qu'émergent autant de bons groupes et de bonnes choses à Rouen. Donc en 73 à Rouen, bah déjà, y a donc énormément de groupes qui jouent et la première formation des Dogs date de cette époque-là. Paul devait venir, mais je ne sais pas où il est, il doit être... Paul Pechnard, il avait dit qu'il venait. Bon, il viendra plus tard, peut-être. Et donc, c'est une des premières la première formation. Et donc, on a mis là rapidement beaucoup de. Bah, Flavien, tu parleras un petit peu aussi de tout ça. Et puis, Philippe Gonin parlera aussi des Dogs tout à l'heure. Donc, on ne va pas épiloguer, mais simplement, on peut montrer à quel point ces fondateurs, à partir de la. Multiplicité des musiques que Dominique pouvait écouter et faire connaître. Et donc vous avez une citation de ce que Eric raconte, comment en 1976 Dominique lui a offert le premier 45 tours des Sex Pistols. Et même si Dogs n'est pas punk, Dominique a toujours été le vecteur de toutes les musiques les plus... nouvelles et les plus diverses, et c'est hyper important pour pouvoir créer une culture de base et ensuite cette généalogie des groupes qui est intéressante et la perméabilité comme ça des musiques et des sons. Je pense que c'est ça qui est plus, c'est cette énergie là qui est importante et qui permet de comprendre comment les groupes se sont construits. Donc voilà, ça c'est une photo de premier concert des Dogs, donc issu du journal en 77 à Rouen, le badge. Et puis voilà, comment nous pensons que ce groupe est un peu fondateur de manière à la fois réelle et symbolique, même si le capital symbolique est très fort pour Rouen, ou partout en France et dans le monde. Si vous dites Rouen, les gens répondent « Ah oui, les Dogs ». C'est quand même assez fondateur de tous les groupes qui ensuite pourront émerger et continuent de jouer aujourd'hui. On rencontre une dernière chose, on ne va pas prendre trop de temps, mais... avec Christophe, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de... Nous, on est à la fois d'une génération, et puis moi, par mon histoire, plus attachée à cette première génération de musiciens. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'aujourd'hui, il existe une scène punk à Rouen et des musiciens qui ne connaissent pas forcément, d'ailleurs, les premiers groupes. Et à travers la Conjuration des Fourneaux, l'endroit où nous allons déjeuner tous ensemble ce midi, où on va faire un apéro ce soir, à travers le... La Queue Pontime, qui sont des jeunes qui font du punk à Rouen, le lien n'est pas fait entre les trois générations. Ils ne se connaissent pas forcément. Et nous, quand on est allé au concert, par exemple, de Perm 36 ou des Rejetons de Quasimodo ou d'autres groupes punks qui sont aujourd'hui des gamins de 20-25 ans, ils se revendiquent forcément. Ils ont un héritage culturel musical rouennais, mais les gens ne se connaissent pas forcément. Et donc peut-être que là aussi, à travers le programme, on pourrait réussir à ce que, on le remarque, notre programme est à la fois historique, sociologique, anthropologique, musicologique, mais également permet de créer beaucoup de liens sociaux au sein même des villes dans lesquelles on s'arrête. Et ça, je pense que c'est déjà important. Donc,
après, les nouveaux groupes n'ont pas forcément envie de connaître les anciens groupes. Hein. Il y a ça aussi.
Oui. Donc voilà, on a posé un petit peu le contexte dans lequel nous travaillons et on continue, comme l'a fait Solveig et comme l'a fait Luc, à évidemment appeler de tout notre cœur aux archives et à la collecte de tout ce qui vous semblerait intéressant pour construire cette histoire du rock et du punk à Rouen. Donc maintenant, si Merci. Vous voulez bien, nous allons... je ne sais pas si comment est-ce que tu veux faire, Christophe. Vous avez des choses à dire ou on enchaîne directement avec...
S'il y a des questions.
Avec Flavien
ou... Deux, trois questions.
Voilà, quelques questions Tant ou que des je remarques. Mette le...
Bonjour, je m'appelle Christian Clair. Vous avez, il y a plusieurs choses qu'il faut quand même préciser, parce que le mouvement punk rock à Rouen, il est important aussi dans un contexte. Bon, je pense qu'il faut évidemment dire qu'il y avait Mélodie, bien entendu, mais il y avait aussi l'Exo 7 avant le Studio 44. Et en fait, toute l'émergence de tous ces groupes, c'est aussi parce que tout le monde se rencontrait dans une salle de spectacle. Et
oui, puis, c'est pour ça.
Mais attendez, excusez-moi, je vais pas être long. Je veux dire aussi que c'est tout un contexte, c'est-à-dire que tous ces groupes, les Gloires Locales, les Dogs et compagnie, qui faisaient un clan, dynamiser toute une ville, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne faut pas simplement parler du rock, il faut parler d'un tout. Il y avait les punks, il y avait les skins, il y avait les tweeds, il y avait les rockabilly, il y avait les babas, il y avait les tweeds, enfin bref, il y avait toute une flopée de groupes. Moi je me souviens, j'ai commencé la radio en 1982, je faisais une émission qui s'appelait Rock en Vrac, j'étais peut-être première émission à inviter les Vermines, c'était assez folklore d'ailleurs. On faisait ça comme ça, on ne savait pas trop comment ça se passait. Et c'est pour ça, je pense que je me souviens dans ces années-là, j'avais recensé 150 groupes à Rouen. Alors tout le monde se mélangeait, faisait tout. Mais je pense que dans votre présentation, il faut aussi bien spécifier ça, c'est que c'est une époque particulière, c'est le début des radios locales, et que effectivement tous ces groupes pouvaient fonctionner parce que tout le monde allait à K-West, à Radio Néon, moi j'étais à Radio Néon, il y avait Éphémère, etc., etc. Donc en fin de compte, il y avait toute cette possibilité pour les groupes de se faire connaître. Et il y avait tous les petits lieux aussi, la Muleta et compagnie, où tout le monde jouait pour pas un sou. Et en fin de compte, ça a pu former tous ces musiciens, et certains sont devenus connus après, mais en fait, il y avait tout ce terreau-là. Et je pense que dans la présentation, il y a toutes ces années 70 qui arrivent aux années 80, et tout ce terreau vient aussi de toute cette explosion des médias également, qui ont favorisé tout ça. Voilà,
c'est tout. Alors justement, tu es en train de dévoiler tout ce qui va arriver après.
Ben voilà.
Parce que nous avons simplement, ce matin, si tu veux, c'était juste un contexte un peu historique pour montrer, même avant les années 60 et 70, comment...
Non, mais comme vous avez parlé de France 3 Normandie dans les années 80, je pense qu'il faut le faire en entier, parce que sinon, on ne comprend pas tout.
Bien sûr. Voilà. Là, c'était vraiment juste une présentation de ce que Christophe et moi faisons de particulier dans le programme, et pourquoi on a fait ça aujourd'hui à Rouen. Puisqu'ensuite, nous avons chacun pourra effectivement raconter exactement ce que tu dis, ce contexte très particulier, le bouquet de groupes et les lieux, les supports, les radios, etc., qui sont où chacun va pouvoir s'exprimer.
Je pense que c'était aussi dans une époque très particulière. Maintenant, c'est plus du tout la même chose.
Le dire et le développer.
Voilà. Bon, voilà, j'ai un peu.
Mais c'est tout à fait exact. Et tu vas voir que toute la journée, je pense qu'on va essayer justement de faire le tour de toutes ces facettes de la spécificité rouennaise.
Non, c'était. Oui, on voulait couper justement jusqu'en 77. Pour ensuite, mais bien évidemment que les radios libres, les lieux, tout ça, oui, on aurait pu en parler largement. Mais bon, ça, c'est dans le programme et ça va venir par la suite.